Occitanie, terre d'extase. Extase, parce qu'il nous arrive à tous d'être à ce point admiratif d'un site naturel, d'un édifice, d'une œuvre d'art, que nous nous en oublions nous-mêmes. Au cours de cette émission volontairement éclectique, nous vous proposerons de découvrir à travers des textes comment des poètes contemporains se rapportent aux couleurs de l'Occitanie, qu'il s'agisse de couleurs symboliques ou des couleurs de leur espace de vie. La poésie est un art de l'insondable, de l'imprévisible, de la révélation. Si poétiser, c'est faire, c'est aussi très souvent se rapprocher de la nature, car nous pouvons penser, avec le philosophe Marcel Conche, que la nature est, selon sa propre expression, le poète suprême. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle ne cesse de créer cette nature et se montre capable de réagir aux situations les plus imprévues. Présentons tout d'abord Alain Lasverne. Né à Paris, il a passé la première partie de sa vie dans le sud-ouest, près de Montauban, et à 33 ans, il est devenu instituteur à Paris. Il en est reparti quelques dizaines d'années plus tard pour regagner le sud, et il vit aujourd'hui à Sète. Il a également suivi des études de sociologie et de communication. Alain Lasverne dit de lui: vers 33 ans, je suis parti exercer mon métier d'enseignant dans les Yvelines, après diverses tentatives en tant que représentant, formateur en insertion, pigiste pour le Moniteur BTP et la Gazette des communes, entre autres. J'écris régulièrement depuis 1989, je me définirais plutôt comme un auteur d'histoire qui tend vers la poésie quand ce qu'il a à dire n'a pas la forme d'une histoire, ce qui n'est pas si rare. J'aime bien le flash poétique tel qu'il me vient. Je n'ai pas de maître à poétiser, mais j'ai pris la lumière avec des textes divers de René Char, Saint John Perse, Rimbaud ou Prévert, Jean Portante, Christophe Tarkos, qui n'entrent pas formellement dans la catégorie poésie. Alain Lasverne a notamment publié « Si la guerre ne meurt », ainsi que des nouvelles et des poésies dans différentes revues. Il nous donne à lire ses poèmes et il les accompagne du préambule que voici. « La rue où j'habite, rue de la Révolution, à Sète, est une terre d'extase au sens où l'extase, c'est la mobilisation plénitude entière de l'être. Et vivre quelque part, c'est être mobilisé entièrement par son passé, son parcours, ses espérances, mêlé à ceux de la rue, des gens et des choses, dans la plénitude éphémère et imparfaite de soi-même, dans le temps de nos histoires qui conjuguent l'histoire avec un H majuscule. Écoutons-le. Rue de la Révolution. Le bruit écrase le silence habitué. Sous les roues des machines parlantes, indigènes cassés, unijambistes bègues se shootent chez eux au mutique, huile matinale et nocturne à touiller dans l'amer café. La rue Révolution est une idée accrochée à la falaise, chuchotée par les grimpeurs de façades troubles, de tendres rochers, d'ivres murailles, quand le temps passe aux abords de la cinquième saison, celle des révolutions totems, des révélations âcres et des rembobinages sous l'exo. Une rue, ainsi fardée, vit quand même, rugit quand même. C'est court, un peu déchirant, dépend à combien titre le rouge qui lâche. Elle navigue, un peu marine, un peu canaille, dans la ville des bateaux hackés par la marée mondiatriste. Elle traverse quatre saisons sans jamais s'éloigner de l'hiver, mais les dents des révolutionnés stockent l'été et autres fraises des bois localement certifiées dorades. L'hiver est rue donc, l'hiver est une rude société. L'hiver est un gendarme posté au coin de chacun. Il plante des panneaux et des sens giratoires, tous blancs, incolores de blancheur. Les révolutionnaires s'y perdent. Ils font silence sur leurs errances. La clé du silence est au fond de leurs mots. Rue de la Révolution. Il y a le ciel et les tuiles qui le pavent. Il y a des toits qui se poussent pour aller plus haut. Rue de la Révolution, on regarde les façades. On y voit des fils qui pendent en plein passé. On y voit des fantômes qui se posent le temps de faire bonne figure aux révolutionnaires toujours. Le nez a stocké de l'air dans le vent. Le mistral est un ami qui ne sait pas se retenir. Les figures sur les murs reconnaissent les passants et s'évanouissent vers le haut. Sur les toits, c'est comme chez elles, plus près du ciel. Et combien de révolutionnaires marmottent les yeux vent, les yeux ciel, à propos d'un tel le pauvre ou d'une telle, tu te souviens? Ils font de grosses larmes bourrées de souvenirs, et quand les figures là-haut sourient, ils recommencent à s'occuper de la rue. Il y a des mouettes et des gabions accrochés aux sémaphores humains, des cygnes et des fumerolles, tout ce fatras fer tordu et plastique luisant que les oiseaux méconnaissent. Odile Vessiani est née en 1963. Elle vit aujourd'hui en Cévennes. Elle a parcouru le pays de Giono durant son enfance, sur le terrain et, durant sa jeunesse, dans les livres. Elle affectionne la forme courte et le fond incisif dans sa poésie, faite de haïkus et de poèmes, tout comme dans ses récits, qui sont des nouvelles, des haïbun, qui sont la plupart autobiographiques. Loin de l'écriture dite engagée, elle puise son inspiration chez Dame Nature, qui sait la rapprocher de l'humain par le réveil des émotions fortes qui l'habitent. Ses écrits respirent la sensualité au sens large, la contemplation du paysage, mais aussi un certain acharnement à chercher dans les forces de vie ce qui console du désespoir. S'y côtoient la sérénité, la sensation du contact puissant avec la nature, mais aussi des révoltes et la rage d'exister. Ceci dans la fulgurance d'une expression concise, mais toujours forte en images. Sa bibliographie comprend des ouvrages tels que « Hors siècle », une nouvelle poétique parue aux éditions Le Défriché en 2021, « Le tambour des lunes », un recueil de poésie paru aux éditions Atelier Les Passantes en 2012, qui a reçu le prix d'édition poétique de la ville de Beaune. Citons aussi « Le violon de Léo », poème ouvrage collectif, « Je t'apprendrai le verbe aimer », en hommage à Léo Ferré, aux éditions Encre et Lumière en 2006. La poésie méditative d'Odile Vessiani requiert une qualité d'attention soutenue et s'adresse directement à l'imaginaire du lecteur-auditeur. En voici quelques exemples. Matin immobile, lumière verte, dégorgée, des châtaigniers. Les feuilles teignaient de jade la lumière du ciel. Un bruissement bordait le silence d'un garde-fou, de froufou. La pluie tendait les fils de la trame entre ciel et terre. Les pierres gardaient le ruisseau de larmes dans le lit du ventre. L'œil cousait un surjet sur l'ombre des crêtes et le couchant. Colline tendre sous le voile de nuit d'été, laiteuse lune, rondeur des courbes de crête à peine devinée. Dans l'œil de la nuit, les étoiles, peau moussue des chênes blancs, leur lichen d'hiver. Sur leurs feuilles, grains scintillants, soleil saupoudré, bain palpitant de lumière. Je fais la brasse dans ces collines où soufflent les flots. La draille est un ruisseau de mousse, bambou souple dans les frimas, un ver à laisser fondre en bouche. Arcade des filatures, long soupir de la rivière, rire des enfants parsemés sur les pétales blancs. Penchés sur la rivière, les nuages blancs sous les plissures, l'eau vibre, conversation avec l'oiseau. C'était, pour mettre en résonance avec les textes d'Odile Vesciani, une composition d'Olivier Messiaen, petite esquisse d'oiseau, et c'était notamment le rouge-gorge, interprété au piano par Marie Vermelin. Parlons maintenant du travail de la poésie de Françoise Renaud. Née dans le sud de la Bretagne, Françoise Renaud a rejoint le Languedoc pour étudier les sciences de la terre, puis a enseigné à Montpellier pendant près d'une vingtaine d'années. En 1997, paraît son premier roman, L'enfant de ma mère, aux éditions HB, qui marque le début de sa trajectoire littéraire. Ce qu'elle décrit, le paysage, les pulsations du monde, les sentiments des hommes. Et en filigrane, au fil de l'œuvre, on ressent la présence silencieuse des personnages fondateurs que sont les parents et les aïeux, et la matière des pays et le souci de l'origine. Un long chemin parcouru au bénéfice d'une écriture simple et profonde, percutante. Aujourd'hui, elle se consacre à la littérature. L'écriture est devenue son art de vivre. Avant son dernier ouvrage en date, intitulé « Bois d'Azobé », paru en 2022 aux éditions KDP, Françoise Renaud a publié « Pulsion vivre », fragment autobiographique, chez le même éditeur, et en 2017, un roman, Retrouver le goût des fleurs, chez CLC Éditions. On trouvera sa bibliographie complète sur le site de l'association Autour des auteurs. Elle a publié pour la jeunesse aux éditions CLC et Le lutin malin. On notera aussi un essai poétique et méditation paru en 2018 aux éditions Encre et Lumière sous le titre de Immensité là, ainsi qu'un ouvrage de prose poétique paru aux éditions Les Trois Spirales avec des calligraphies de Marcel Zaragoza. Voici tout d'abord ces fragments cévenols de l'été 2022. Sol poussière. Le dénivelé est sensible à progresser vers la grande place. Se méfier du cœur de ruelle composé de pavés assemblés en calade pour créer un caniveau central à cause de l'eau qui vient l'automne et noie jusqu'au niveau peuplé. Oui, se méfier du creux, marcher d'un côté ou de l'autre. Végétaux coriaces entre fissures, herbes devenues paille, feuilles roussies, trognons de pommes jetés aux fourmis, terre, petits cailloux, débris de crépis, déjections animales, pierres écroulées, tout dans le caniveau déshydraté en attente de rien, constituant des petites accumulations. Imaginez le filet d'eau qui viendra s'en emparer au prochain orage. Nouvelle grille d'évacuation et boîte métallique ornée de lettres et de chiffres. Pavés, pierres cimentées, granulés, galets agglomérés, sable et paille, surface bitume ou béton. Enjamber les limites obliques éblouissantes de la lumière qui dessine des lignes de paysage, ombres projetées des toitures, hérissées de câbles et bordées de gouttières. Irisation des poussières et des pierres décomposées. Irisation aveuglante. Poussière. Approche dans la lumière d'août. Rien que des images, pas de son, pas d'accès aux paroles échangées. Les portières avaient sans doute claqué et la voiture s'était faufilée par la route rapide, empruntant des ronds-points encombrés de voitures de tourisme et de camping-cars qui cherchaient leur direction. En arrière-plan, les montagnes recouvertes d'un maquis ponctué de rochers blancs, comme un découpage au bord du ciel, impression de sécheresse. Dans le défilé rocheux, c'était devenu féerique, alternance d'ombre et de lumière forte, d'où cette impression de noir et blanc. Après une série de virages resserrés, il y avait des véhicules garés dans tous les sens, au lieu dit les forces. Beaucoup de monde, comme à la plage, sueur ruisselant sur la peau, chaleur dans l'habitacle. Attention aux enfants qui traversent, et le film se satisfait de raconter ce temps du trajet qui paraît toujours long quand on le fait pour la première fois. Il raconte ce soleil saturant les sens et asphyxiant les couleurs, mais moins que sur les trottoirs devant l'agence. Ces zones de ténèbres qui brusquement absorbaient la voiture, cette rivière vivante, ce hameau plus loin, pareil à un repère, ce vieux pont à passage unique qui resterait attaché en mémoire à cette première visite et dont on ne savait rien encore, un peu compliqué à franchir à cause des promeneurs. Restait à se faufiler plus haut vers la zone de confluence des deux rivières où s'était installée la vie première. Enfin, on y était. La voiture s'était garée en épi derrière un bâtiment qui ressemblait à un temple. Ensuite, c'était à pied que ça se passait. Le petit groupe s'était avancé sur une passerelle près d'une fontaine. Puis, la ruelle là-bas, celle qui conserve plus de chaleur que les autres, les avait absorbés d'un coup dans sa goule.
Aye, 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 aye
D'entendre Ayoub Ogada dans sa composition intitulée Côte Biro. Claude Noël Hortala, poète, est né à Ouveillan, près de Narbonne. Depuis une trentaine d'années, il réside à Limoux, où il vit maintenant une retraite paisible, nous dit-il. Dès la fin des années 80, il s'est mis à écrire des poèmes au travers desquels il conte son histoire, celle d'un poète audois, un paille-bassol, comme l'on dit dans la Haute-Vallée de l'Aude. Cet autodidacte, après une carrière rugbystique riche, a découvert l'épopée cathare au travers de pièces de théâtre qu'il a lui-même jouées et de livres retraçant l'histoire de ces personnes considérées comme hérétiques, mais qui ont profondément marqué sa région. Comme de nombreux habitants de ce département, il se sent fortement imprégné par cette philosophie et nous fait partager par la poésie son vécu, ses pensées et ses émotions. À ce jour, ce sont près de 130 poèmes qui les traduisent sous sa plume. Toi, mon pays cathare. Niché sur la colline, les oliviers tordus portent leur paix divine dans les buissons touffus. La garrigue étincelle sous le soleil de plomb. Seule, la tourterelle chante dans l'horizon. À deux pas, dans le val, de vieux ceps centenaires implorent le Saint Graal de façon débonnaire. La coupe sera pleine de ce vin caillouteux, fidèle à son domaine, anobli peu à peu. Le thym, le romarin, corseront le bouquet du breuvage divin qui sera dégusté. Cette terre donne aux fruits un goût particulier, incomparable, inouï, qu'elle est seule à livrer. Pour l'homme, c'est pareil. Quand il est arrivé dans le simple appareil, il était imprégné. La vigne et l'olivier, le soleil du matin, avaient sans s'en douter pénétré le bambin. Toute sa vie durant, il gardera au fond ce bel identifiant propre à chaque région. Mon beau pays cathare, merci de m'avoir fait et appris, chose rare, la valeur des parfaits. Patrick Cojol, né en 1958 à Agen, est un ancien fonctionnaire de police et qui est aujourd'hui auteur de romans policiers. Il a commencé toutefois par la poésie. En 2010, Georges Moustaki lui a remis le prix Louis Amad. Patrick Cojol a aussi obtenu le Grand Prix des Jeux Floraux du Béarn en 2008, ainsi que le prix de la ville de Beaune. Écoutons son poème Écume jaune. Aspiré par ce ciel, assoiffé et avide, une pluie d'or montait du champ de tournesol. Marée jaune, ondulant comme douce sylphide, elle posait sur l'azur ses vagues d'auréoles. Je voyais cette mer, déhanchée par le vent, fuyant sur la colline comme un essaim d'abeilles, et je fermais mes yeux pour voir ce que Vincent a bien pu ressentir en peignant ses soleils. Peut-être y voyait-il quelques éclats de rire ou des flammes perdues incendiant le silence. Peut-être pensait-il qu'elle venait l'applaudir pour mieux le remercier de sa luminescence. Quelques voiles hésitantes, déguisées en oiseaux, lui seraient apparues sur le damier des nuages, et il y aurait vu qu'en courtisant mes mots, le chant s'était déjà évadé de sa cage. Cible. Une odeur, une nuit, un nuage s'évapore à travers la fenêtre que j'ouvre ce matin. Vais-je enfin aujourd'hui lire ce que j'ignore et savoir si le ciel va me tendre la main? Partout, des traces d'anges parlent sur la rosée, quand chez moi, les objets éternisent leurs rêves. Tous y sont au repos, partout disséminés, attendent d'ici peu que le temps les soulève. Déjà là, le soleil, souriant comme un peintre, copie quelques couleurs qui seules t'appartiennent. Doucement, doucement, la lune sur son cintre s'amenuise en bâillant, attendant que tu viennes. Je vais parler à Louis et te voir en Elsa. Toi, toujours devant moi, toujours au fond de l'âme. Léo viendra, bien sûr, plein de noir dans la voix, neiger sur quelques vers la douceur de ton charme. Tous les jours se déguisent, en quoi je ne sais pas, mais les mots sont des prêtres plus hauts que les églises. Pourquoi donc ce poème? J'écris parce que je crois, je sais, enfin, je sais, c'est l'amour qui me vise. La poétesse Roseline Morandi déploie une énergie considérable pour le bien de la poésie. Depuis son atelier galerie de Sorèze, elle fait rayonner non seulement sa propre poésie, mais aussi celle des autres grâce à un programme d'animation, de rencontres et d'expositions ininterrompues. Et ce, depuis une dizaine d'années, son entrain et sa constance force l'admiration. Joyeusement limpide, sa poésie se veut accessible, universelle. Ses poèmes prennent souvent la forme d'une révérence, d'une vénération de la nature et des êtres. Roseline Morandi est née à Dijon en 1950. Elle fait des études secondaires à Marseille, puis à Dijon et dans un lycée à Liverpool. Pendant 5 années, elle est assistante du maire de Château-Thierry, dont on sait qu'elle est la ville natale du poète Jean de La Fontaine. Elle obtient en 1993 une maîtrise en linguistique générale et anglaise. Elle exerce comme professeure d'anglais de 1994 à 2011 et en 2005, après 17 ans sans publication, elle fait son retour à une vie littéraire avec le roman « Terre ouverte ». En 2011, elle s'installe à Sorèze, en Occitanie. Sa bibliographie comprend de nombreux recueils de poésie, des nouvelles et plusieurs romans. Voici quelques textes de la main de Roselyne Morandi. Et vibrer à l'envi, épouser les couleurs d'un bouquet d'espérance, le pourpre d'un baiser, le saphir de la nuit, l'émeraude sertie des ruisseaux de la mer tendrement alanguie sur le sable argenté. Épouser les bonheurs des jours sans plus d'outrance, les revêtir d'été à l'heure des interdits, en bannir les dénis à la saveur amère et vibrer à l'envi de rêves enchantés. Ce poème est extrait du recueil « Le souffle d'un mot d'amour » paru sous la signature de Roselyne Morandi en 2022. Un autre poème qui s'intitule « Un chant ». Un chant de coquelicot, un chant rouge et or caressé d'un vent tiède, un chant où nous cacher, nous aimer, un chant de coquelicots habillés de caresses, d'infini, d'oubli, d'extase sans trêve. Un chant, un rêve, sans cesse, un chant de coquelicots, un chant rouge et or, un chant. Enfin, une petite fugue à deux voix sur l'autre rive du miroir du fleuve, la ville dort, éclairée par endroits de lueurs orangées. Tout est calme, dit-il, lorsqu'on est deux à regarder, tout paraît mort si l'on est seul, si l'on est seul. Sur l'autre rive du miroir du fleuve, leurs regards ont bercé la ville silencieuse, éclairée par endroits de lueurs orangées. Chères auditrices, chers auditeurs, cette émission est terminée. Elle a été réalisée par Shelley à la technique et animée par Pierre-Jean Brassac. Nos vifs remerciements à Françoise Renaud, Odile Vessiani, Roselyne Morandi, ainsi qu'à Alain Lasverne, Claude Hortala et Patrick Cojol.